Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Je reçois pour ce nouvel éclairage François David, président en exercice de la COFAS, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. François David, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de cette invitation aussi spontanément. Vous avez connu un parcours assez exceptionnel dans sa diversité et sa qualité. Avant de présider aux destinées de la COFAS en 1994, si je me souviens bien de la date, vous avez été un grand spécialiste de la banque et de la finance, directeur au ministère des Finances, directeur général international de l'aérospatiale. Vous êtes un chroniqueur, un auteur particulièrement apprécié et avec plus de 100 000 clients et 6 000 collaborateurs répartis dans 65 pays, la COFAS, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, est l'une des plus importantes sociétés d'assurance de crédit au monde. Alors, François David, première question, quelle est la mission de la COFAS ?
Oui, juste un mot. Vous dites à juste titre que la COFAS est la compagnie française d'assurance crédit à l'exportation. Elle était française à l'origine. Elle est aujourd'hui dans 64 pays. Et je me demandais à un moment s'il ne fallait pas qu'on débaptise son nom, parce qu'après tout, elle n'est pas que française et c'est seulement 30% des recettes qui proviennent de France. Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas le débaptiser parce qu'on dit COFACER, se COFACER à l'international. Et je crois que nous sommes la seule société française qui se décline avec un adjectif et un verbe. On dit à quelqu'un qui vend à l'étranger « êtes-vous COFACER ?». Donc ce mot COFAS a une valeur en tant que telle. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas la débaptiser. Je ferme la parenthèse pour dire que notre vocation est donc principalement de garantir les exportateurs contre le risque de non-paiement par un client étranger. Quand on vend à l'étranger, dans un pays, on court un risque qui est de ne pas être payé. Alors, ou on l'assume soi-même, on prend le risque, ou alors on se dit, il vaut mieux que je confie ceci à un spécialiste à qui je paye une prime d'assurance, et si par hasard mon client ne me rembourse pas, eh bien, c'est la COFAS qui me remboursera. Voilà, en schématisant beaucoup, le rôle de la COFAS.
Alors, Président, la COFAS a donc, comme vous venez de le rappeler, pour mission de faciliter les échanges commerciaux des entreprises sur l'ensemble de la planète et de proposer des solutions pour gérer et financer leurs postes clients. Alors, la COFAS a été créée en 1946, elle a été privatisée en 1994, elle a été cotée à la Bourse de Paris et elle est devenue filiale d'un grand groupe, en tout cas, elle appartient à un grand groupe bancaire français à travers Natixis. Mais vous poursuivez en parallèle, néanmoins, au-delà de ces activités, on va dire, privées, des missions publiques pour le compte du gouvernement dans la garantie des grands contrats civils et militaires français à l'exportation.
C'est cela. Alors, pour rendre les choses bien claires pour les auditeurs ou les lecteurs, nous avons été privatisés en 1994, non pas parce que le gouvernement souhaitait privatiser l'entreprise, mais tout simplement parce que les actionnaires qui étaient publics sont devenus privés. Donc c'est une sorte de privatisation indirecte. Ce n'était pas une volonté de l'État de privatiser l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous sommes filiale d'un grand groupe bancaire qui s'appelle Natixis Banque Populaire, qui est un groupe qui, historiquement, est associé au capital de la COFAS au travers de la BFCE, au travers du Crédit National, qui était historiquement créé en même temps que la COFAS.
Vous exercez à la fois des métiers, on va dire, dans le domaine strictement privé, mais aussi vous avez conservé un rôle dans le domaine public, en quelque sorte.
Absolument. Alors, quand je suis arrivé à la COFAS, il y a 13 ans, nous exercions ces deux fonctions que nous continuons à exercer. Premièrement, assurer et garantir ce qu'on appelle les grands contrats à l'exportation. Qu'est-ce que c'est ? C'est vente d'Airbus à Vietnam Airlines, c'est vente d'une centrale nucléaire à la Chine, c'est la vente d'un réseau téléphonique au Brésil. C'est ce qu'on appelle des grands contrats qui s'échelonnent sur une dizaine d'années et qui ne sont pas assurables par le marché privé. Et donc c'est l'État qui l'assure et nous, nous faisons cela pour le compte de l'État, donc il nous paye. Il nous paye un certain montant d'argent chaque année pour le faire pour son compte. Mais si demain, il n'était pas satisfait de nous, il pourrait très bien nous dire « Écoutez, vous faites mal votre métier et je vais donner ça à la Caisse des dépôts ou à BNP Paribas ou autre ». Depuis 1946, nous continuons à faire ceci pour le compte de l'État. Quand je suis arrivé, ça représentait plus de 50% de nos recettes, de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce n'est plus que 4% de notre chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est du privé-privé, c'est-à-dire une PME qui vend à un acheteur espagnol, italien, britannique et qui veut se couvrir contre le risque. Donc nous continuons à faire ça pour le compte de l'État, mais nous avons prioritairement et je dirais majoritairement un rôle d'assureur privé.
Alors vous avez donc quatre métiers bien distincts. L'information, des entreprises en sont friandes, la gestion de créances, l'assurance crédit, le facturage. Par ailleurs, vous avez eu vocation à créer des notations, des ratings pour les risques pays. Alors vous pouvez peut-être revenir brièvement sur ces quatre composantes. Est-ce que ce sont des métiers qui sont très différents, très complémentaires ?
Ce sont des métiers qui sont totalement complémentaires. Pourquoi ? Lorsqu'on regarde aujourd'hui les raisons de faillite des entreprises, on s'aperçoit que dans 25% des cas, c'est une mauvaise gestion de ce qu'on appelle le post-client, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise gère son client. Alors comment est-ce que l'entreprise gère son client ? Pour bien gérer son client, il faut qu'elle s'informe sur lui, information. Il faut qu'elle garantisse éventuellement le risque, assurance crédit. Il faut qu'elle puisse recouvrer les créances lorsqu'il y a un problème. Et elles peuvent aussi donner tout leur crédit en affacturage. Donc ce sont quatre métiers qui sont complètement en synergie dans ce qu'on appelle la gestion du post-client. C'est pourquoi il y a une totale complémentarité entre ces quatre métiers. Alors par ailleurs, comme vous dites, nous faisons de la notation. Alors juste un mot là-dessus, parce que je crois que c'est très important. Vous avez dit au début de votre intervention que nous avions 100 000 clients dans le monde. On en a en réalité un peu plus, 120 000 clients qui viennent nous voir en France, à Singapour, au Chili, aux États-Unis, en Espagne. Nous sommes aujourd'hui installés dans 64 pays. Donc 120 000 entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent « voilà, on veut se garantir contre un risque ». Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est la qualité de leur acheteur à eux. Et aujourd'hui, nous garantissons ces 120 000 clients sur 50 millions d'entreprises dans le monde. Ce qui veut dire que pour faire correctement notre métier, nous devons connaître la situation financière de 50 millions d'entreprises dans le monde. Je rappelle que les agences de notation, toutes les trois grandes réunies, suivent 30 000 entreprises dans le monde. Nous, 50 millions. Et qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde leur capacité d'honorer leurs échéances à court terme, c'est-à-dire leur fiabilité. Et on s'aperçoit, statistiquement, que lorsque dans un pays, la qualité financière des entreprises se dégrade, c'est-à-dire qu'elles n'assurent plus leur financement, deux ou trois mois plus tard, l'économie de ce pays se dégrade. Nous avons donc un indicateur anticipé de conjoncture complètement microéconomique qui nous distingue des grands observateurs macroéconomiques que sont le Fonds monétaire ou l'OCDE. Ça nous permet de prévoir quelques mois à l'avance ce qui va se passer dans un pays, non pas sur la base d'indicateurs macroéconomiques, mais uniquement en suivant la qualité financière de la moyenne des entreprises de ce pays. Jusqu'à présent, je touche du bois, nous ne nous sommes jamais trompés sur nos prévisions économiques sur l'année qui vient.
Alors justement, puisque vous êtes au niveau microéconomique, mais sur l'ensemble de la planète, est-ce que actuellement, les signes que vous percevez et prédicteurs sur ces marchés sont de nature à vous faire prendre une position sur l'éventuelle sortie de la crise financière plus ou moins rapidement? Quel est, avec ce regard, on va dire, un peu différent par rapport à la macroéconomie, ce que vous décernez comme signaux précurseurs sur ce sujet?
Je rappelle que la crise du subprime a démarré au début de l'année dernière. Et dès le début de l'année dernière, tous les instituts macroéconomiques ont dit qu'il va y avoir une récession aux États-Unis au cours du deuxième semestre 2007. Nous avons regardé nos courbes de défaut de paiement et on s'est aperçu que sur l'ensemble de l'année 2007, elles n'ont pas bougé. Donc nous, on a dit et on a répété tout au long de l'année 2007, il n'y aura pas de récession aux États-Unis en 2007, contrairement à tout le monde. Et vous observerez qu'en 2007, la croissance de l'économie américaine a été de 2,3%, ce qui n'est pas génial, mais ce qui est quand même tout à fait satisfaisant. En revanche, depuis le début de l'année 2008, nous notons une croissance assez forte des défauts de paiement aux États-Unis. Et donc nous disons, il y aura un ralentissement aux États-Unis. Je dis bien un ralentissement et non pas une récession, car à la grande différence de la dernière crise, qui est celle de 2001, où il y a eu une récession aux États-Unis, la croissance des défauts de paiement aujourd'hui est deux fois moins élevée. Deux fois moins élevée. Alors je rappelle qu'aux États-Unis, en 2001, la croissance a été seulement de 0,8%. Aujourd'hui, M. Strauss-Kahn vient de nous dire que la croissance aux États-Unis sera de 0,5%. Nous ne sommes absolument pas d'accord sur ce diagnostic macroéconomique. Nous nous disons que la crise est moins grave aujourd'hui qu'elle était en 2001. Et nous maintenons que le taux de croissance de l'économie américaine cette année sera de l'ordre de 1,5%, c'est-à-dire le double de ce qu'elle a été en 2001. C'est ennuyeux, ce n'est pas dramatique.
Alors ça, c'était extrêmement important ce que vous venez de nous dire, Président. Est-ce que, alors, si on sort bien évidemment de la cible prioritaire qui est donc l'Amérique et qu'on en vient sur les autres zones d'influence, en particulier l'Europe, et dans l'Europe, la vieille Europe, on trouve la France, quels sont vos sentiments sur le sujet? Est-ce que l'économie réelle est dans ce paysage-là, va être touchée? Les premiers signes le disent ou non?
Oui, vraisemblablement. Mais juste avant de répondre à votre question, sauf si vous allez me poser la question après, sur la Chine. Parce que tout le monde dit le ralentissement américain va avoir un effet immédiat sur l'économie chinoise et va rabaisser le taux de croissance de la Chine. Faux et complètement faux. Pourquoi? Aujourd'hui, le commerce extérieur ne représente plus que 20% du PNB chinois, alors que c'était beaucoup plus il y a quelques années. Et dans ces 20%, la part des États-Unis est elle aussi de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie chinoise dépend des États-Unis seulement pour 4% de son PNB, c'est-à-dire très peu de choses. Et si l'économie chinoise va un peu ralentir cette année, ce n'est pas du tout à cause des États-Unis. C'est dû à la surcapacité et la surproduction intérieure des entreprises chinoises qui créent des problèmes entre les entreprises, des faillites, des défauts de paiement, mais pour des raisons intérieures chinoises et non pas du tout pour le lien que la Chine a avec les États-Unis. Donc je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de littérature sur le thème « la Chine va souffrir de l'économie américaine ». Non, pas du tout. Elle va souffrir de ses propres problèmes internes. Alors je reviens maintenant à votre question qui est « et sur l'Europe ?» Eh bien, sur l'Europe, il va y avoir un ralentissement cette année, globalement, qui est dû beaucoup moins à l'effet américain qu'à un effet miroir américain. Nous suivons de près trois pays européens qui nous préoccupent beaucoup, qui présentent les mêmes problèmes que les États-Unis. Un, une bulle immobilière, et deux, un surendettement des ménages. C'est la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Irlande. On oublie souvent qu'en Espagne, l'an dernier, il s'est construit autant de logements en Espagne qu'en Allemagne, Grande-Bretagne et France réunies. Il y a donc une bulle immobilière considérable et ces trois pays sont en train de souffrir du même symptôme ou du même syndrome que les États-Unis. Donc ce n'est pas tellement l'effet mécanique des États-Unis sur l'Europe, c'est en Europe le même système de bulle immobilière et de surendettement des ménages qui va créer une décroissance par rapport à l'an dernier. Alors l'an dernier, la croissance européenne aura été de l'ordre de 2, un peu plus de 2%. Cette année, nous estimons qu'elle sera aux alentours de 1,5%. Donc là aussi, ralentissement, mais pas récession.
Ralentissement, mais pas catastrophe. Et donc la France, si on en vient maintenant à une vision beaucoup plus franco-française, elle, de son côté, est peut-être un peu moins touchée par les phénomènes de bulles pour des raisons multiples et variées, à commencer par peut-être qu'elle est à l'abri des phénomènes de courtage et de pratiques de taux d'intérêt qui, eux, sont beaucoup plus majoritairement fixes qu'ils le sont, notamment dans les autres pays et les pays anglo-saxons. Donc, a priori, je crois comprendre que implicitement, vous disiez que la France n'était pas la cible prioritaire de cette bulle immobilière.
C'est exact, mais elle a d'autres raisons qui font qu'il y aura un ralentissement, et principalement le fait que les trois pays sur lesquels elle exporte prioritairement, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, sont trois pays qui vont connaître un ralentissement relativement important. Donc elle va souffrir de ce côté-là. Elle ne va pas souffrir du côté bulle immobilière, elle va souffrir du côté, vraisemblablement, de l'impact du déficit commercial sur la croissance, qui est un impact non négligeable.
Le biculturel que vous êtes, quel regard, lui, il porte sur nos amis anglais? Et ils en sont où? Parce qu'ils ont un pied un peu écartelé des deux côtés, ou pas?
Nos amis anglais sont très forts. Ils ont toujours été beaucoup plus forts que nous. C'est-à-dire qu'ils profitent à la fois de l'Europe sans avoir les contraintes de l'euro, ce qui est quand même une performance exceptionnelle. Donc, du jour au lendemain, les autorités britanniques peuvent décider, un, d'une baisse de taux d'intérêt et, deux, d'un effort budgétaire, alors que nous, nous dépendons de la Banque centrale européenne et pas de la Banque de France, et que nous sommes donc tributaires d'un ensemble de personnes qui décident à Francfort ce qui est bon pour la France. Donc les Britanniques, encore une fois en matière diplomatique, jouent mieux le jeu que nous et se débrouillent mieux. Ceci dit, c'est quand même en Grande-Bretagne qu'on a vu la faillite de Northern Rock et des queues devant une banque qu'on n'avait pas vues depuis 1929. Donc le problème immobilier britannique, il est quand même dramatique.
Justement, je dirais que la culture historique anglaise en la matière a pris un grand coup de canif, parce qu'il a fallu que l'État, d'une certaine façon, directe ou indirecte, mais surtout directe, vienne au secours de Northern Rock.
Oui, là, j'ose pas dire la perfide Albion, parce que ça serait un peu excessif, mais il nous donne des leçons de libéralisme toujours. Mais dès que la situation est préoccupante chez eux, l'État intervient. Vous avez cité le cas de Northern Rock. Je voudrais citer un cas beaucoup plus grave à mes yeux, qui est le cas des ventes de British Aerospace en Arabie Saoudite. Vous avez peut-être suivi cette affaire où il y a eu un problème de corruption absolument majeur, totalement contraire à toutes les règles de l'OCDE, et où l'État britannique, conscient de l'importance de British Aerospace dans son économie, a cessé toutes les poursuites et a dit « ce n'est pas un problème ». Donc quand ça les arrange, les Anglais, eux aussi, ils réagissent de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, hypocrite que nous.
Vous avez évoqué, il y a quelques instants, la problématique des banques centrales, en disant que, bien évidemment, ça pouvait apparaître à un moment donné comme étant une contrainte supplémentaire par rapport aux problèmes de croissance et de gestion générale des finances. Quel est votre sentiment sur le sujet? La BCE par rapport à la Fed, finalement, par rapport à la crise, on a vu quand même des banques centrales se coordonner, même si les options générales, les orientations principales restent quand même différentes, puisque d'un côté, c'est la défense, on va dire, contre l'inflation, et de l'autre, c'est sauvegarder à tout prix l'économie.
La BCE nous pose à nous, Français, deux problèmes. Le premier problème, c'est que les décisions de la banque sont dictées par des économies qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques que la nôtre. Donc, nous, quand on souffre un peu plus que d'autres, la BCE nous dit « écoutez, moi, j'ai un conseil des gouverneurs et puis je décide souverainement en fonction des intérêts de l'Europe et non pas en fonction des intérêts de la France ». Donc, premier problème, nous n'avons pas la maîtrise de la politique monétaire. Deuxième problème, c'est le mandat de la BCE. On accuse Jean-Claude Trichet de ne penser qu'à l'inflation, mais il ne pense qu'à l'inflation parce que son mandat lui dit de ne penser qu'à l'inflation, alors que le mandat de la Fed est de penser à l'inflation, mais aussi à l'emploi. Et donc la Fed, elle dialogue en permanence avec le département du Trésor, avec le Congrès, avec les autorités politiques. Jean-Claude Trichet dit, lui, je n'ai pas à dialoguer. J'ai à prendre mes décisions de manière souveraine en fonction de la charte qui est celle de la BCE. Donc nous avons à cet égard deux problèmes. Alors aujourd'hui, il y a un début de coordination, encore bien modeste, mais un début de coordination à cause de l'ampleur de la crise. Mais cette coordination, elle aurait dû exister déjà depuis bien longtemps. Et si celle-ci avait existé, peut-être que la crise aurait pu être évitée. Si les banques centrales avaient dit « il faut qu'on ait un système de contrôle beaucoup plus sérieux sur les encours des banques et sur la façon dont elles délivrent leurs crédits et à qui elles les délivrent », si elles avaient introduit un peu de transparence, si elles avaient dit aux agences de notation « vous faites un métier qui est un peu dual », entre d'une part la notation et d'autre part les conseils à la boîte que vous notez, peut-être que si toutes ces disciplines avaient existé il y a 2 ans ou 3 ans, si les banques centrales s'étaient coordonnées, nous n'aurions pas assisté aux dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui.
Donc la thématique de Patrick Artus, qui a reçu le prix Turgot, les banques centrales incendiaires, qui est un titre peut-être un peu fort, vous n'êtes pas très éloigné, en tout cas pour une première période, de cette approche.
Oui, alors je n'ai pas lu son livre, mais Patrick Artus est un observateur très, très avisé de la scène financière mondiale. Si sa thèse est de dire les banques incendiaires parce que l'incendie s'est allumé et c'est seulement maintenant qu'elle essaye de l'éteindre, il a raison, c'est ce que je viens de dire. Si les banques centrales s'étaient mieux coordonnées par le passé, je pense qu'on aurait pu éviter ce qui se passe aujourd'hui.
Terminons peut-être sur ce grand panorama avec 2 questions très rapides. La première, c'est votre personnel qui est très, très nombreux. Vous êtes comme 6 000, je crois, répartis dans le monde. Il se répartit comment globalement, enfin dans les grandes masses au niveau de la planète? L'essentiel est en Europe ou plutôt externalisé dans...
Alors l'essentiel est en Europe parce que l'assurance crédit est une technique essentiellement européenne. Dans les autres pays, les entreprises ne s'assurent pas contre le risque de non-paiement. Elles se renseignent sur la qualité de leur acheteur. S'il est bon, elles y vont. S'il n'est pas bon, elles n'y vont pas. Mais elles ne se garantissent pas contre le risque. Donc c'est une technique essentiellement européenne. Donc l'essentiel de nos salariés sont en Europe. Ceci dit, nous nous développons dans des pays où l'assurance crédit n'existait pas il y a 10 ans et où nous avons réussi à faire le marketing du produit en disant aux entreprises, attention, vous pouvez vous renseigner sur l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, mais est-ce que vous êtes sûr que les renseignements sont bons? Je rappelle que 15 jours avant la faillite de Enron, les agences de notation notaient Enron AAA. Nous, 3 mois avant, nous avions des renseignements nous disant qu'Enron allait mal. Donc nous avons les meilleurs renseignements sur les entreprises. Aujourd'hui, nous avons 300 personnes aux États-Unis, 150 en Chine. Nous nous développons en Amérique latine, dans toute une série de pays où l'assurance crédit n'existait pas. Donc nous sommes encore principalement européens, mais près de 30% de notre chiffre d'affaires maintenant vient de nos agents qui sont en dehors d'Europe.
Bien, écoutez, Président, il nous reste à vous remercier pour cette interview et ce panorama très complet sur à la fois l'activité économique, les rôles et les missions de la COFACE que vous présidez, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Merci à vous, Président.
Merci à vous.